Bienvenue à Confession de leader, un balado inspirant pour propulser votre équipe au travail. Je m'appelle Chloé Caron, je suis auteure, coach exécutive et fondatrice d'O2 Coaching. Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive expérience client chez EXO. Elle vient nous parler des prises d'action concrètes qu'elle a prises afin d'atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière de gestionnaire. Marie-Hélène a débuté sa carrière dans le domaine des communications avant de s'orienter vers l'industrie des transports. D'ailleurs, jusqu'à tout récemment, Marie-Hélène était vice-présidente exécutive Québec et Maritime de Transdev Canada, un géant mondial de la mobilité. En 2019, elle a remporté le prix Relève, femme d'exception Énergie Valero, au Gala Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle était à l'époque vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada, propriétaire d'Orléans Express. À l'aube de sa quarantaine, Marie-Hélène relève un tout nouveau défi, celui d'entrer à la haute direction d'EXO, l'organisme qui opère les trains de banlieue, le transport adapté et certains autobus dans la région métropolitaine de Montréal. Comme coach, j'étais vraiment curieuse de savoir comment Marie-Hélène arrive à développer sa carrière et ses compétences tout en restant focussée sur ce que j'appelle sa contribution stratégique unique, sa CSU, c'est donc dire la contribution au plus haut niveau stratégique possible et que seule elle peut et doit accomplir. Voici donc ma conversation avec Marie-Hélène Cloutier, une leader pour qui diriger veut dire être au service de plus grand que soi. Ça a été quoi ta plus grande surprise dans ton arrivée depuis les quelques semaines?
On m'avait dit que j'étais attendue, mais de le vivre à ce point-là, ça m'était rarement arrivé. Donc, non seulement j'ai rencontré des gens d'expertise extraordinaire avec des talents extraordinaires, mais surtout, c'était réel cette attente-là et je me suis sentie chaleureusement accueillie et surtout, toutes les idées ou les changements ou les projets sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble, j'ai senti qu'ils les souhaitaient, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment particulier. Je me trouve vraiment chanceuse d'arriver dans un contexte où les gens veulent te voir arriver.
Où il y a un alignement là, entre tes intentions puis le pourquoi tu as choisi. Et d'ailleurs, pourquoi tu as choisi cette opportunité-là? Pourquoi tu as choisi de relever ce défi-là?
Mais pour moi, c'était un défi extraordinaire dans un contexte où la mobilité est en train de se réinventer autour du Grand Montréal.
Ben oui,
Cette opportunité-là passera pas souvent. Et ayant profondément une passion pour la mobilité, mais surtout une passion pour les opportunités que la mobilité peut avoir au bénéfice du client, c'était un poste pour moi taillé sur mesure, dans la mesure où EXO est un organisme qui souhaite desservir le client, mais qui a aussi un profond... je vais dire mindset, si on me permet l'anglicisme. Agile, c'est une organisation qui est quand même assez récente. Donc, il y a tellement à faire que la femme de changement et d'innovation à moi pouvait se sentir comblée.
D'ailleurs, ça, c'est vraiment une de tes caractéristiques. Tu sais, quand on regarde ton profil, ton CV, je veux dire, tu n'as même pas 40 ans, tu as eu des jobs avec vraiment des grandes responsabilités. Puis à chaque fois... ce changement-là, driver le changement, justement, si moi aussi je me permets l'anglicisme, ça fait partie de qui tu es.
Ça fait partie de qui je suis et ça fait partie de ce que j'aime. Et ça m'a pris du temps à être capable de mettre des mots sur cette envie-là de changement. Souvent, au départ de ma carrière, j'avais l'impression que j'étais instable, que j'étais jamais satisfaite, que j'avais toujours envie de pousser plus loin, donc j'allais peut-être des fois trop vite pour certaines personnes. Puis avec le temps, j'ai appris à contrôler ça pour en faire une énergie vraiment qui allait faire focusser les gens dans un monde ou sur des projets qui étaient en éternel repositionnement. Mais cette envie-là d'innover, pour moi, me garde alerte. Et les gens ont besoin de ça. Même les gens qui aiment leur travail, qui savent ce qu'ils ont à faire, qui veulent le faire, ont tous des idées ou des suggestions de comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. C'est inné de vouloir améliorer les choses. Puis je vois mon rôle comme le chef d'orchestre de toutes ces idées-là pour les faire émerger. Puis on va se le dire, ça me fait sentir bien de faire sortir le meilleur de ces idées-là des gens. Ça me fait sentir utile.
L'intelligence collective, c'est tellement, tellement, tellement important. En fait, pour moi, c'est le reflet de la santé d'une équipe. Quand une équipe est en santé, les vrais enjeux sont soulevés, les gens osent exprimer leur opinion, leurs différences, ils savent que c'est pas personnel, mais qu'au contraire, c'est dans un objectif de meilleure performance de la part de l'équipe, de se développer. Et donc, comme leader, un des éléments clés de l'intelligence collective, c'est de permettre qu'elle s'exprime et c'est donc d'écouter, mais c'est aussi de permettre par des mécanismes comme, vous allez le trouver à la page 144 de mon livre, d'établir des rôles pour des rencontres comme le rôle de l'éléphant dans la salle, comment quelqu'un met sur la table ce qui est apparent pour tous, mais que peu exprime. Ça, c'est un des outils que je propose dans mon livre pour faire émerger l'intelligence collective.
Puis c'est comme en t'écoutant, je me dis, c'est vrai dans le fond, parce que les gens qui suscitent le changement, qui aiment ça, qui embrassent le changement assez facilement, peuvent bousculer un peu autour de soi, c'est normal. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est « et comment je peux transformer ça pour que ça soit, pour galvaniser, autrement dit, l'énergie de tout le monde, puis comme tu viens de le dire, faire sortir le meilleur des autres. » Comment on fait ça? Pas être trop intense, mais au contraire, pour galvaniser les énergies, puis tu ris, parce que j'imagine que ce n'est pas un exercice ou un équilibre facile à atteindre.
C'est pas facile. Moi, je dis souvent que ça prend un leadership courageux parce que je crois que quand on est courageux, ça veut pas juste dire faire des bons coups. Donc, ça demande beaucoup d'humilité quand on veut innover ou qu'on veut amener un changement. Ça veut pas dire que ça va être parfait. Donc, à travers les expériences que j'ai eues ou dans un monde assez organisé, tu sais, souvent dans les opérations, là où j'ai beaucoup appris de mon métier de la mobilité, je travaillais avec des ingénieurs, des gens très organisés. Ça demande énormément de, malgré l'innovation, de précision, mais de petite précision qui fait qu'on gagne la confiance des gens à travers ce changement-là qu'on veut apporter. Je crois qu'il faut expliquer que innover ou que la gestion du changement, ce n'est pas un refus du passé. Et c'est ça, en fait, qui est difficile pour les gens. C'est de se dire, ben, ce que j'ai fait, ça veut dire que ce n'est pas... c'est pas adéquat ou que je l'ai fait il y a quelques années, c'est plus
ça
bon.
Ça vaut plus rien, ouais.
C'est en plein ça. Je pense que vraiment, il y a une façon. En fait, je suis convaincue qu'on peut garder le meilleur de l'histoire et de le faire évoluer puis de le mettre à la sauce d'aujourd'hui parce que les gens qu'on dessert innovent. Et puis, tout ça, pour moi, se fait autant par l'intuition que la raison. Je pense que c'est ça le bon mix qui nous permet d'être juste.
Puis dans le fond, ce que tu dis, c'est vraiment une vraie représentation de ce que c'est l'agilité, de travailler en itération. Donc, on fait pas table rase, on améliore la sauce, là, si je peux me permettre l'expression, pour aller chercher le meilleur. D'ailleurs, toi, là-dessus, quand tu penses, tu as dit le client, en pré-entrevue, tu as dit aussi le passager au lieu de les passagers. Est-ce que ça, de pouvoir identifier ton client comme... une personne et non pas un groupe et non pas une masse, ça t'aide à garder ton esprit innovant puis à galvaniser tes troupes?
Oui, beaucoup. Et je dis souvent le passager ou le client vraiment consciemment. Ils sont tous uniques. Et là, je suis dans le monde de la mobilité, donc ça teinte les explications que je vais donner. Mais la façon dont on se déplace le matin... est jamais ou rarement la même que le soir. Hein. Puis la mentalité de la mobilité d'il y a quelques années, c'était bon, mais on compte la personne dans un bus ou dans un train le matin, puis on s'attend, bon, on fait fois deux, elle va revenir. Mais le cocktail de mobilité a tellement évolué, puis on m'a beaucoup accompagnée dans ça, mais on m'a fait comprendre que le passager a une vie excessivement rocambolesque qui fait que dans une même journée, il va se déplacer d'une autre façon. Alors, pour revenir à ta question, de revenir au passager dans son unicité, c'est quelque chose qui me garde les deux pieds ancrés dans leur réalité à eux et non pas sur ce qu'on peut imaginer. Et en fait, ça insuffle plus que du courage, mais de la curiosité Et ça, quand tu tombes dans la marmite d'être curieux par rapport aux gens que tu desserres, mais de toute façon, ça pousse un certain courage ou des actions parce que tu n'as pas le choix de t'adapter en fonction d'eux.
Puis il me semble que cette curiosité-là, elle doit être redoublée dans le contexte où là, on se sort tranquillement d'une pandémie, les habitudes ont changé, les gens, oui, retournent au travail, mais pas tous ou pas tout le temps. Alors là, cette curiosité-là, j'imagine qu'elle est encore plus forte pour toi pour comprendre c'est quoi les comportements des usagers là, ou du passager, pour reprendre ton terme.
Elle est nécessaire. Puis je pense que si on ne capte pas cette opportunité-là aujourd'hui, elle ne repassera pas deux fois. Les gens ont changé. Puis pas juste le ou les passagers, mais même moi, ça me teinte comme gestionnaire par rapport aux employés qu'on a dans nos équipes parce qu'ils ont changé aussi. Moi, j'ai changé. Eux, ils ont changé. Et de revenir vraiment aux besoins des gens, d'essayer vraiment de les comprendre, ça donne du sens. Puis ça fait en sorte qu'on ne fait pas juste... imaginer une stratégie sans qu'elle soit concrète. T'sais, pour moi, de passer à l'action, pour moi, avoir des idées puis de ne pas nécessairement les mettre en action, au même titre que d'analyser les besoins, mais de ne pas modifier nos actions ou de penser aux passagers, mais de ne pas le traiter concrètement, je pense qu'on passe à côté du train pour ne pas faire un mauvais jeu de mots ou un bon. Et c'est une opportunité perdue, en fait. Surtout l'action, si on ne se met pas en action après.
Qu'est-ce que tu penses que ça va avoir fait comme changement, là? Je ne parle pas aujourd'hui, là, mais tu sais, sur le long terme, comment tu penses que ça va influencer tout le domaine du transport?
Si on prend vraiment cette opportunité-là de comprendre comment les gens ont évolué, surtout avec tous les grands projets de transport qui sont devant nous, on a vraiment l'opportunité de répondre aux besoins des gens le plus possible. C'est certain que c'est impossible de faire 100% plaisir à tout le monde, mais cette opportunité-là qu'on a de les écouter et d'essayer de faire en sorte que les réseaux sont connectés, qu'on répond à leurs besoins, qu'on leur facilite la vie. T'sais, souvent, dans les réseaux, quand on les visite dans d'autres pays, on se rend compte que c'est centré sur la vie du passager ou de l'usager, la création vraiment du cocktail de mobilité autour de leur vie. Le fameux TOD, et quelque chose qui est à reprendre, c'est un développement orienté sur le transport. Puis cette chance-là qu'on a, qui ne repassera pas, c'est de vraiment les écouter dans une optique où ils ne sont... leur vie a changé. Et pour moi, le déplacement des usagers, c'est en fait l'épine dorsale de notre économie aussi. Les compagnies vont devoir s'ajuster aussi. Donc, pour moi, je pense que le transport, c'est la base. Puis cette opportunité-là dont tu parles, elle est juste plus grande à cause de la pandémie. Mais elle était déjà là, parce que moi, ça fait 8 ans que je suis dans le monde de la mobilité.
C'est ça.
Et c'est certainement juste une chance accélérée qu'on a de vraiment les écouter.
Puis vraiment, nous, comme société, d'embrasser tout ce qui est justement transport en commun, puis peut-être donner une chance à notre planète de respirer un peu, ou en tout cas de continuer à respirer, ce qu'on lui a permis de faire en partie pendant la pandémie, là, mais de continuer à respirer comme ça. Justement, tu as fait 8 ans que tu es dans l'industrie du transport. Avant, tu étais dans les médias.
Oui.
J'ai plein de questions pour toi. Je vais t'en donner 2, puis tu choisis l'ordre dans lequel tu veux répondre aux questions. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transition-là? T'as amené dans un monde d'hommes quand même, le monde du transport, plus d'hommes. Puis qu'est-ce que l'expérience média t'amène aujourd'hui comme leader dans l'industrie dans laquelle tu es?
Bien, j'ai été les premières années, comme tu as dit, dans le monde des médias, puis... C'est là où j'ai commencé, sans trop m'en rendre compte, à faire du changement puis de l'innovation. T'sais, le monde des médias vraiment faisait une transition du traditionnel vers le numérique. Donc, c'est devenu tout ce qui est digital, un peu mon angle mort que j'aime apporter dans notre quotidien. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est les bases de ma formation aujourd'hui puis qui m'a donné vraiment cet esprit-là très convaincu qu'on doit tourner les modèles d'affaires, tout en gardant le meilleur de ce qu'il y avait, parce qu'on n'a pas jeté aux poubelles comment les médias se faisaient de façon traditionnelle depuis les dernières années. On l'a simplement amené à un autre niveau pour encore mieux répondre aux besoins des usagers ou des gens, justement, qui utilisent les médias. Ma transition vers la mobilité, en fait, c'est faite par un heureux hasard, mais je pense que c'est le plus bel hasard de ma vie. J'ai vu cet emploi-là qui était ouvert, on m'en avait parlé, et j'avais pas idée de ce que j'allais ressentir dans cette entrevue-là ou quand je me suis assise avec le président, mais ça l'a donné énormément de sens à ce que je faisais, de me retourner un peu d'un point de vue du service public. Et c'est là où on m'a fait réaliser ce qu'était la mobilité dans une vie pour des gens, pour une ville. Cette impression-là, à tous les jours de se lever, de se dire, il y a des gens qui se transportent, les décisions que tu vas prendre vont avoir un impact sur comment les gens se déplacent, les décisions que tu vas prendre ou pas, les changements que tu vas apporter, pour moi, faisait en sorte que ça répondait à cette quête de sens-là, d'où j'étais rendue dans ma vie, qui fait en sorte que je sens que je peux laisser une marque à travers le travail qu'on fait. Ça me rend fière, ça me mobilise, ça m'engage. Et surtout, ça me donne une quête d'essayer de faire le mieux pour le passager. Et on m'avait dit, quand on tombe dans le monde de la mobilité, et je le vis encore aujourd'hui, les gens en parlent avec tellement de passion, les gens sont piqués au vif par la mobilité parce qu'il y a tellement de choses à faire. Puis tu l'as nommé monde d'hommes ou pas, puis c'est vrai, c'est un monde plus à saveur masculine. À toutes les fois qu'on parle de mobilité, l'étincelle vient dans les yeux, peu importe de qui je parle. C'est un monde très cartésien aussi quand même, mm-hmm. le transport. Ça m'a donné énormément de rigueur. C'est mm-hmm. un monde de performance. Mm-hmm. Et je sais que je suis reconnue pour amener à travers le volet client qui est plus qualitatif, énormément de performance parce qu'on doit se mettre dans l'action puis se mesurer. Donc, ça m'a apporté ce monde-là, cette passion-là pour le sens, mais cette rigueur-là également qu'on doit avoir pour s'assurer que ça soit pérenne, parce que souvent, les décisions qu'on prend vont avoir un effet sur les 10, 15, 20 prochaines années des gens qu'on dessert. Alors, et personnellement, ça m'a donné du caractère de travailler dans un monde où j'avais à défendre des idées souvent nouvelles face à effectivement un monde plus cartésien, un monde d'hommes en mobilité. Puis j'avais souvent plutôt des mandats de refonte. Et ça, mm-hmm. bien, il faut être drôlement convaincant.
Puis, tu sais, t'as même pas 40 ans, je l'ai dit, d'entrée de jeu. C'est impressionnant, là, quand même, ce qu'on te donne et ce que tu, grâce au leadership que tu as, que tu arrives à les mandats que tu desserres, là, si on veut. Tu as aussi une très grande introspection, je trouve, pour quelqu'un de ton âge. Je m'excuse en le disant, j'ai entendu un peu la matante en moi, là. Je m'assume totalement. Mais donc, tu sais, quand même, puis pour moi, l'introspection chez les leaders, tu sais, c'est le premier chapitre dans mon livre, là. Je veux dire, ça commence par soi, fait que c'est comme hyper, hyper important. Comment tu as gagné ça, cette introspection? Je sais que tu as travaillé avec des coachs, mais comment tu gagnes ça, cette introspection-là?
Je suis pas capable de te donner un moment précis dans ma vie où ça m'est apparu. Je suis toujours quelqu'un qui a été assez curieuse, qui se posait beaucoup de questions, qui souhaitait que les gens soient bien. Puis, tu sais, quand tu veux que les gens soient bien ou que tu veux t'améliorer ou dans tes relations, bien souvent, t'es porté à te remettre en question. Donc, je me demande si c'est pas ça la base de cette introspection-là dont tu parles.
D'accepter de se remettre en question.
Se remettre en question puis d'accepter de... Tu sais, je reviens souvent sur le courage, mais c'est drôlement difficile là, de se regarder dans un miroir et de mm-hmm. se dire, bon, ben je fais des erreurs, je vais trop vite. Mais c'est ce que tu en retiens pour moi qui est le volet de l'introspection qui est le plus important. Puis je suis pas capable de pas te dire que ça a été assez naturel, mais je l'ai drôlement travaillé. J'ai la chance, on en a déjà parlé ensemble, là, d'être accompagnée par des coachs. Puis non seulement des coachs, mais des mentors, tu sais, des gens dont je suis tellement reconnaissant de leur temps, qui me donnent du temps, puis juste de m'asseoir, puis de parler avec eux, puis de voir comment eux se remettent en question, puis acceptent de s'ouvrir puis de se mettre à nu puis qu'on en discute ensemble, ça me pousse vraiment à continuer d'accepter ce moment-là où des fois, je n'ai pas la réponse ou que je fais un pas par en arrière. Mais ce pas-là, des fois, soit par en arrière ou de surplace, il est conscient au détriment de, des fois d'être plutôt dans le passé, pas capable d'en être conscient. Mm-hmm. Parfois, consciemment, je fais un pas par en arrière parce que j'ai envie d'être un petit peu plus confortable, mais au moins quand on fait du surplace, ben tu sais que c'est parce que tu veux gagner un peu de temps, donc c'est... Mais ça me caractérise, mais surtout ça me fait du bien. On a commencé notre rencontre sur le être centré, mais c'est devenu un petit moment privilégié avec moi-même, en fait.
Cette introspection-là, puis tu dirais que c'est réénergisant, dans le fond, aussi, pour toi?
Oui. Ouais. Souvent, ça me donne un moment, tu sais, je veux dire, d'être capable de me remettre en question, d'accepter de prendre une pause, parce qu'on n'a pas souvent de pause dans le type de journée qu'on a, mais ça me donne un moment à moi-même, égoïstement, tu sais, de me demander où je suis rendue, de faire un petit bilan, de faire mon plan de match. Tu sais, on planifie nos semaines, hein, tu sais, on fait nos to-do, on sait ce qu'on a à faire. Mais pour moi, de prendre ce temps-là très égoïstement, au début, tu vois, je l'utilise encore, je dis que c'est égoïste, c'est pas égoïste, là, je veux dire, c'est nécessaire.
C'est un must.
C'est un must, oui. Vraiment, là, je
moi, si, honnêtement, en t'écoutant, je me disais, si les gens qui nous écoutent pouvaient retenir juste ça de notre conversation, pour moi, ça serait mission accomplie. Il y a plein d'autres choses, mais ça serait mission accomplie parce que les leaders sont tellement occupés, tout le monde est tellement occupé. Puis ce que j'entends souvent en ce moment, c'est « j'ai pas le temps ». Puis la question qui me vient pour tous ceux, et moi incluse, qui dit « on n'a pas le temps », bien, c'est quoi le coût sur tes employés? C'est quoi le coût sur ta business? C'est quoi le coût pour tes clients quand tu dis que tu n'as pas le temps? Et là, toi, tu le dis, c'est un must. Parce que ça t'apporte quoi pour ta business, mettons, puis tes employés, quand tu prends le temps pour toi? C'est quoi les bénéfices?
Bien, je me trouve... je ne suis pas la femme la plus patiente en ville. Là. Ça me donne beaucoup de patience. Ça me permet d'être dans l'écoute pour vrai. Là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est... Tu sais, quand ton cerveau, il va à 3000 à l'heure parce que tu as plein d'idées puis que tu enchaînes les meetings, mais ça, pour moi, ça me permet de prendre un temps d'arrêt. Je trouve que mon écoute est meilleure après. Je suis une meilleure conjointe aussi. Là. Tu sais, ma vie n'est pas juste au travail. Donc, Ça m'apporte juste d'être plus sereine. Je me trouve, comme je suis une femme d'action, ça me donne un moment d'inaction voulu et souhaité.
Mm-hmm. Pour mieux te préparer pour l'action, parce qu'en fait, c'est ça. Hein? C'est ça, c'est pas comme si on était dans l'inaction indéfiniment, c'est juste comme pour...
C'est temporaire. Temporaire. Mm. Et ça, honnêtement, je pense que c'est... Une des belles choses que j'ai travaillé, puis j'ai pas fini, là, honnêtement, là, c'est facile de rentrer dans nos routines, surtout, tu sais, là, je rentre dans un nouveau poste, et tu veux tout de suite te mettre dans le bain, puis j'ai la chance d'avoir un patron qui m'a dit, justement, tu sais, Marie, prends le temps, puis c'est tellement important, puis là, ben je le mets face au travail, mais dans la vie personnelle aussi, tu sais, de prendre une pause, puis même si on a tout un travail important... en tout cas, moi, je ne sauve pas des vies. On a des gens extraordinaires qui le font, mais ça me rend définitivement plus patiente.
Comment développer son introspection? C'est tellement important. Dans mon livre, c'est le premier C des 5 C de mon modèle dans le livre « Propulser votre équipe ». Ça commence par soi. Autrement dit, comme leader, on ne peut pas se cacher. Le climat dans notre équipe, l'engagement, l'innovation, l'inclusion... tout ce qui a trait au climat de mon équipe puis la performance de mon équipe, ben c'est moi comme leader qui a un impact jusqu'à 70% dessus. Alors, on ne peut pas se cacher comme leader d'être en mesure d'avoir un portrait et une compréhension de l'impact que mes actions ont sur l'équipe. c'est primordial. Pour ce faire, je vous invite à aller sur notre site au deuxcoaching.ca parce qu'il y a une tonne d'outils, dont des auto-évaluations qui vous permettent de prendre conscience de votre style de leadership, votre style social, des outils très concrets et pratiques pour vous permettre d'être encore mieux comme leader.
Puis je veux revenir sur l'écoute parce que tu m'as donné deux ou trois trucs. Tu m'as partagé deux ou trois trucs quand on s'est parlé hors d'onde, puis où tu me disais, voici comment je fais intervenir ce que moi j'appelle l'intelligence collective, puis ça rejoignait un peu l'écoute. Je ne sais pas si tu te rappelles de tes trucs.
Oui, je m'en souviens. L'écoute, quand ce n'est pas naturel, bien, on essaye de l'organiser. Donc, une chose, moi, qu'on m'a appris et que j'applique, c'est dans le cadre d'une rencontre, même si c'est pour que quelqu'un dise qu'il n'y a rien à ajouter, je fais des tours de table contrôlés. Et je donne parole dans l'ordre ou dans le désordre. Personne ne sait jamais dans quel côté je vais partir. Mais je trouve ça important de laisser la chance à tout le monde de s'exprimer parce que c'est toujours les mêmes qui parlent. Il y a des gens qui sont plus vocaux que d'autres. Puis il y a des gens que si tu ne leur donnes pas l'occasion, ils ne s'exprimeront pas. Puis ça force les autres à être dans l'écoute aussi, et moi aussi, parce que je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, vraiment prendre un tour de table. Puis c'est pas grave si la personne n'a rien à dire, mais ça, pour moi, ça force l'écoute collective, d'écouter ce que les gens ont à dire. Et souvent, les gens, ils vont commencer en disant, j'ai rien à ajouter, mais peut-être. Puis tu finis toujours par avoir un petit quelque chose qui
va faire un build-up.
La perle est là, puis là, ça build-up sur le prochain qui va s'exprimer. Et ça contrôle ceux qui ont toujours quelque chose à dire, de relever la main ou de couper la parole. C'est pas son tour. Quand tu as passé ton tour pour parler, c'est le prochain. Puis sinon, on refait un tour. L'autre chose qui est une pratique qui est pas facile, puis j'ai comme une espèce de... Je te l'avais montré un petit document là, de l'analyse des besoins. Parce que quand les gens, ils s'expriment, ils t'exprime des besoins. Puis j'en avais pas conscience, en fait. C'est un coach avec lequel j'ai travaillé qui m'a fait toute la cartographie des besoins là, que les gens ont, en commençant par essayer de comprendre les miens. Qu'ils n'expriment pas des besoins cachés.
Donc, mais qui, avec leurs mots, sous-tendent des besoins plus profonds. C'est ce que tu dis,
c'est
là.
C'est ça. Oui. Donc, des fois, je sors mon petit papier, là, souvent, je ne le fais pas devant eux, mais j'essaie de me dire, bon, qu'est-ce qu'ils essayaient vraiment de me démontrer comme besoin? Puis ça me force à être dans l'écoute, mais surtout l'écoute de ce qu'ils essayent de me dire qu'ils ne disent pas. Donc, puis la finalité de ça, c'est que quand tu comprends les besoins des gens, bien, je m'efforce vraiment d'être un caméléon puis d'adapter comment je vais dire les choses à comment est-ce qu'ils sont capables de le percevoir. Tu sais, moi, j'ai... Mon premier comité de gestion, il y a encore une semaine, je me suis présentée, j'ai présenté mes tests trimmer, ils savent comment je suis, je leur ai dit que j'étais visuelle. Donc, tu sais, j'ai été très expressive, mais ce n'est pas tout le monde qui va le dire. Donc, moi, j'aime m'adapter en fonction des gens que j'ai devant moi, parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont pas visuels du tout, il y a des gens que chaque mot qu'ils vont dire doit être pesé, donc il faut vraiment que tu les captes à 100%. Il y a des gens qui partent dans tous les sens, il faut les centrer. Donc, il y a des gens plus cartésiens. Donc, c'est un bon défi pour moi parce que comme je veux aller vite, ça me pousse vraiment cette écoute-là d'analyse des besoins puis de m'adapter à eux, à être dans le moment présent de la rencontre là, qu'on est en train d'avoir parce que c'est un exercice, là, on va le dire. Toi, je sais que tu es peut-être plus habile ou tu coaches les gens à le faire, mais quand...
C'est une des choses les plus tough parce que dans nos programmes, on montre beaucoup l'écoute puis on montre toute l'approche de coaching pour devenir un leader coach. Puis bien, la base du coaching, c'est l'écoute. Mais c'est difficile parce que tu l'as dit, tu sais, les gens veulent être dans l'action, dans la performance et... aussi beaucoup parce qu'on est tous des experts à notre façon. Fait qu'on a toute une série de réponses qui sont probablement déjà très bonnes. T'sais, on a eu des expériences, on avait des solutions, on les amène de l'avant. Mais toi qui aimes tellement innover, si tu c'est évident que si on remet toujours de l'avant les mêmes réponses, bien, on crée le même type de résultat. Fait que l'écoute, c'est la clé pour l'innovation parce que là, tu dis « Ah! Il y a quelque chose de nouveau là qu'on n'avait peut-être pas entendu puis qu'on pourrait explorer, tu sais. »
Oui, qui est à capter. Puis je pense qu'au début de ma carrière, comme je me suis retrouvée vite dans des positions importantes, que j'étais toujours la plus jeune autour d'une table, et ça, Dieu sait, je l'ai dit à plusieurs de mes coachs, à mes mentors, j'ai travaillé sur ça. L'écoute, c'était pas mon premier réflexe parce qu'on devait prouver rapidement, donc dire, prendre parole, démontrer que tu as ta place. Et ça, c'est toute une transition d'accepter que c'est pas parce que tu lèves pas la main ou que tu parles pas que tu n'as pas ta place. Mais pendant des années, j'ai plutôt été portée à essayer d'avoir une réponse, de démontrer. J'arrivais toujours surpréparée pour des rencontres parce que... Donc là, je n'étais pas dans l'écoute, j'étais dans le démontrer pour être certain que personne ne se demandait ce que je faisais autour de la table. Et là, ça fait quelques temps que j'ai décidé de travailler ça autrement. Puis je pense que c'est un beau cadeau que les gens peuvent se faire que d'écouter parce que les gens, ils disent plein de choses, autant avec des mots que pas des mots. Quand tu regardes le non-verbal des gens autour d'une table, c'est incroyable.
Puis je peux pas m'empêcher de penser que ça te rend plus accessible, toi, comme leader, si t'es pas dans la démonstration puis dans le te prouver puis prouver aux autres et que t'es plus dans accueillir les autres, faire valoir les autres. Puis je dis pas que tu le faisais pas, mais que tu le fais encore plus. Ça te rend encore plus accessible. Puis j'imagine que les gens, ils doivent aimer ça, travailler avec toi. Ils sentent qu'ils ont une place avec toi.
Bien, je pense que oui. J'ai toujours eu des équipes dynamiques dans lesquelles ben, j'encourageais à ce qu'il y ait une voix. J'ai travaillé, puis je travaille aujourd'hui. Tu sais, toutes les gens que je rencontre chez EXO, c'est des talents, Chloé, extraordinaires. Donc, je pense que on a la chance d'avoir des gens talentueux, des super experts qui, eux, devraient prendre parole sur beaucoup de sujets bien avant moi. Et je pense vraiment que sans eux, de toute façon, on n'avancerait pas. Donc, ça paraît assez réchauffé, mais je pense vraiment que c'est eux vraiment qui doivent être mis de l'avant. Puis moi, j'ai plaisir à faire ça parce que quand ils réussissent, de toute façon, bien, ça montre juste qu'ils ont un bon plan de match. Donc, ça veut dire que toute l'équipe réussit. Mais j'espère, puis en fait, j'aspire à ce que les équipes avec lesquelles je travaille sentent qu'elles peuvent se réaliser. Au même titre que moi, on m'a permis la chance, on m'a donné cette chance-là de pouvoir me réaliser. J'ai toujours eu des gens avec qui je travaillais, qui ont cru en moi puis qui m'ont laissé prendre cette place-là, qui m'ont permis de faire des choses que je comprends même pas. Ça aurait dû être le président ou quelqu'un d'autre qui faisait des choses comme ça. On m'a laissé cette place-là. Et puis, ça a été vraiment instructif d'avoir des gens comme ça autour de moi. Puis aujourd'hui, c'est pas forçant pour moi de leur laisser prendre cette place-là.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Marie-Hélène de 20 ans avec ce que tu sais aujourd'hui?
Sois patiente, ça va venir. ben, peut-être... je pense que ce que je comprenais pas à cet âge-là, c'est que comme ce que je ressentais, parfois, c'était pas écrit dans un livre. J'avais du mal à y faire confiance. Quand je crois que les gens ont beaucoup d'intuition, après, tu peux valider tes intuitions à travers des analyses ou, bon, peu importe, t'assurer de la performance. Parce que souvent, tu sais, comme je suis une femme très performante, on dirait que ça rime pas, c'est quand je parle d'intuition en amont, mais je pense que les gens ont plus d'intuition qu'ils pensent.
Ouais, moi aussi, je suis convaincue de ça.
Et je crois qu'au début de ma vingtaine, ce que je ressentais, c'était ça. C'était de l'intuition. C'était une envie de faire plus. Puis j'étais pas capable de canaliser. Puis c'était dur à décrire. Je n'étais pas dans une boîte. Donc, d'où la patience de voir ce que ça va apporter. Mais je lui dirais qu'elle fait pas ça pour rien. Puis de continuer de travailler sur elle-même. honnêtement, puis de se trouver des gens autour d'elle avec qui parler de ça, même si ça sort tout croche, là, ça va finir par faire du sens.
Bien, puis clairement, ça a payé. Regarde où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis à Marie-Hélène de dans 20 ans? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ou poser comme question?
J'ai envie de lui dire, vois-tu ta chance que tu as de faire une différence pour les citoyens? Honnêtement, et j'espère que tu vas bien l'utiliser, cette opportunité-là, de la saisir au bon, puis de dire c'est maintenant ou jamais, puis de penser à toutes les gens qu'on peut transporter, puis à tout le bien que ça va leur faire. Donc, je lui dirais de continuer à travailler sa patience, définitivement, mais de ne pas lâcher ce filon-là là, de courage puis d'intuition, en fait, qui n'est pas toujours parfaite, mais qui permet d'avancer un peu par essai-erreur pour s'améliorer.
Marie-Hélène, merci pour ce moment de centrage. C'est comme ça que tu as appelé ça en début de...
Un moment de centrage. Pas sûr que c'est un mot, par
moi
exemple.
Non plus. Oui. Moi non plus, c'est ça. En le disant, je me suis dit, il me semble que ça ne marche pas. Mais on s'est centré, on va dire ça comme ça. Un moment où on s'est permis de se centrer. Puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps alors que tu rentres dans un nouveau poste pour te centrer et nous centrer. Tu es une inspiration. Merci. Merci beaucoup.
Merci, Chloé.
À très bientôt.
À très bientôt.
C'était Marie-Hélène Cloutier. Vous pouvez suivre EXO sur plusieurs plateformes, dont Facebook et Twitter. Pour plus d'infos, visitez le exo.québec. Si cet épisode de Confession de leader vous a inspiré, je vous invite à le partager et à publier un commentaire sur Apple Podcasts. Chaque semaine, retrouvez-moi sur mon compte LinkedIn pour des contenus sur le leadership. Vous pouvez aussi suivre O2 Coaching sur LinkedIn et Facebook ou encore visiter le o2coaching.ca pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à propulser votre équipe. Je m'appelle Chloé Caron et comme d'habitude, je vous invite à être inspiré et inspirant.